Écrivains du territoire, l'émission qui part à la découverte des arpenteurs et émerveilleurs du monde. Présentée par Anne-Solange Muisse, géographe et éditrice.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Écrivains du Territoire. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage dans les terres enfouies sous les eaux des retenues des barrages hydroélectriques dans la vallée de la Dordogne. Et pour en parler avec nous, je reçois Armel Faure, anthropologue, docteur à l'EHESS. Votre thèse a porté sur les grands barrages de Bagré au Burkina Faso. Vous avez travaillé plus de 20 ans en Afrique, en Asie et à Madagascar sur les grandes infrastructures. En France, vous étudiez les villages engloutis au cours du XXe siècle avec les familles qui ont été déplacées sur des bords des rivières par la production d'énergie. Vous avez à ce titre réalisé une série d'archives orales auprès de 100 témoins des barrages de la Haute-Dordogne et ses habitants, avec la participation et le soutien des archives du Cantal, des archives de la Corrèze et d'EDF, de 2011 à 2016. Bonjour Armel.
Bonjour. Effectivement, après avoir moi-même participé au déplacement de centaines de milliers de personnes selon les normes internationales qui sont très strictes, je me suis posé la question, mais comment nous, Français, est-ce que nous avons déplacé des Français? C'est-à-dire, j'ai découvert les villages engloutis de la vallée de la Dordogne et puis ensuite je me suis déplacé à travers toutes les rivières de France qui ont déplacé des personnes avec des grands barrages hydroélectriques ou autres. Évidemment, Tignes, Serponçon, Sainte-Croix-sur-Verdon.
Merci Armel. On va revenir sur tout ça dans l'émission. Avec vous sur ce plateau, Carolina Isanto, artiste et docteur en scénographie, qui vient de publier Murmure des villages engloutis de Nozenac à Ubaï aux éditions Terre Urbaine en mai 2021 et qui raconte une longue marche de 600 km que vous avez réalisée entre ces deux villages qui n'existent plus pour porter la parole des anciens habitants d'un lieu à l'autre. Bonjour Carolina.
Bonjour Anne-Solange. Bonjour Armel et Jean-François aussi.
Également, donc, pour vous accompagner, Jean-François Escapil-Inchospé, pardon, animateur de projet territoire au sein d'EDF Hydrocentre. Vous avez assuré la coordination de la participation EDF au programme Sans Témoins dès son lancement. Depuis 2016, vous pilotez de nombreux projets de valorisation de ce fonds d'archives orales, dont des projets inédits qui seront présentés dans les semaines à venir à l'occasion du 70e anniversaire du barrage de Bort-les-Orgues. Bonjour Jean-François.
Bonjour Anne-Solange et bonjour à toutes et tous.
Merci à tous les trois d'être avec nous sur ce plateau pour venir ensemble parler des villages engloutis. Et pour introduire cette émission, je vous propose d'écouter la vidéo réalisée par France 3 Nouvelle-Aquitaine en 2016 avec la voix de l'écrivain Louis-Olivier Vité qui raconte les paysages de la Dordogne.
En 25 ans, la Dordogne et ses affluents ont laissé place à un gigantesque escalier de plusieurs barrages. On trouve ici la plus grosse concentration d'équipements hydroélectriques dans toute l'Europe. Louis-Olivier Vité, romancier originaire de la haute vallée de la Dordogne, a toujours été intrigué par cette période où les hommes ont façonné de nouveaux paysages.
Alors voyez Eric, ici, 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 vous avez la vallée. Vous avez un lac qui est absolument superbe. Alors on voit, il a un petit peu baissé, EDF a turbiné. Mais en dessous, si ça continuait de baisser, vous découvririez tout un univers avec des routes, des villages, des maisons, des ponts. Et par exemple, là, pas bien loin de là où on est, il y a une petite route qui descend, qui plonge dans l'eau. Et au bout de cette route, vous avez un pont qui est à peu près intact, sauf que pendant la guerre, la résistance l'a fait sauter, donc il manque une arche. Il a été construit à la fin du 19e siècle, mais quand le barrage est dénoyé, eh bien ce pont revient dans toute sa splendeur. Il n'est pas sale, il n'est pas abîmé, il n'y a pas d'algues, il n'y a pas de boue, il n'y a rien du tout. Et ici, vous aviez un village qui s'appelait l'Anneau d'Arche. Alors Arche, c'est une petite commune qui est de l'autre côté de la colline, côté Cantal. Et l'Anneau, ça veut dire que c'était un endroit où on passait, où on traversait, voilà, avec un bac. L'anneau. Alors partout où vous avez l'eau dans la vallée, vous savez qu'il y avait un passage avec un bateau et avec des bateliers qui faisaient passer avant les ponts. Donc l'anneau d'Arche, il y a eu un pont un petit peu plus tard, mais autrefois c'était un bac. Et ici, on est pile au-dessus pratiquement du village de l'anneau d'Arche qui est englouti aujourd'hui.
Il y a eu au total 4 villages qui ont été noyés ici dans cette partie de la rivière. Il faut comprendre que derrière les villages, ce sont des histoires humaines.
De belles histoires humaines et surtout une civilisation parce qu'au fond de la vallée, d'abord on parlait une langue plus douce que sur les plateaux on ne mangeait pas de la même manière. On vivait de la rivière, du saumon, on avait des légumes avant tout le monde. Et puis il y avait une vie plus douce parce qu'il y faisait plus doux, tout simplement. Et c'était surtout un peuple de voyageurs, de marins voyageurs, de paysans voyageurs qui descendaient jusqu'à Bordeaux et qui remontaient. C'est tout un monde qui est sous cette eau.
Jean-François, racontez-nous un peu l'époque de l'hydroélectricité. Quand est-ce que commence la construction de ces grands barrages et pourquoi finalement la Dordogne a été exploitée plus que d'autres fleuves français ?
Alors en France, ce qu'il faut se dire, c'est que les débats sur la politique énergétique ne datent pas d'aujourd'hui. Et dès les années 30, donc 1930, il y a des débats entre les partisans de ceux qui souhaitent plutôt développer la production thermique. Et ceux qui sont au contraire partisans du développement de l'hydroélectricité, qui implique de plus grands travaux et qui nécessite des investissements plus importants. Donc il y a des débats sur ces deux grandes familles et sur ces deux choix en matière de politique énergétique. Et après la guerre, à la libération, la politique de production électrique reposait sur un important programme hydraulique qui prolongeait un premier programme élaboré en 1938. Et donc, le programme d'équipement hydroélectrique de l'après-guerre a été considérable avec des grands barrages qui ont été construits de Génicia, de Donzère, de Tignes, dans les Alpes, en Savoie et Pranières dans les Pyrénées. Et bien entendu, donc, le barrage de Bort-les-Orgues, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire de la mise à l'eau, est intervenu. Et donc, c'est un véritable programme de grands travaux d'aménagement en France qui est lancé et qui va se poursuivre dans les années 60-70 avec d'autres grands barrages. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut recontextualiser un petit peu la place de l'hydroélectricité à cette époque-là. Au sortir de la guerre, la part de la production hydroélectrique représentait environ 50% de la production nationale d'électricité.
Et oui.
Donc ça, c'est considérable et ce qui montre que à l'époque, l'hydroélectricité occupait une place vraiment très très importante dans la politique énergétique de la France.
À ce moment-là, il y a beaucoup de villages dans les vallées. Quelles sont les activités qui prospèrent alors dans ces villages, dans ces vallées, qui ensuite ont été finalement un petit peu effacées?
Alors, il faut se dire que dans ces vallées, le rapport à la rivière et à l'eau était très important et on utilisait beaucoup la force motrice de l'eau, que ce soit pour les activités humaines de type moulin, mais aussi des usines traditionnelles autour de la tannerie, de toute une industrie autour de l'eau. Et donc la force motrice de l'eau était vraiment quelque chose de très important, y compris utilisée aussi pour la navigation, les déplacements et évidemment pour la pêche. Mais la force motrice de l'eau était très importante. Alors à l'époque, ces paysages, ces villages, on notait dans ces paysages la présence et le travail de l'homme. Tout ça était visible. La France était un pays agricole, avec une agriculture qui était faiblement mécanisée et où la vie sociale, j'ai envie de dire, et Armel y reviendra certainement, était très organisée autour de rites et des rythmes de fêtes, du travail de la terre et de ce rapport à la rivière et à l'eau. Et il y avait aussi une très grande activité dans ces villages autour de la pêche, les saumons, les truites, etc., qui étaient dans ces rivières avec des techniques de pêche tout à fait singulières. Et puis, c'était une vallée vivante avec pas mal d'activités commerciales, des foires, et aussi une vie sociale importante autour de cafés, de restauration, bref. Une vie telle que aussi on la vivait à cette époque-là dans les vallées et dans le monde rural en France.
Eh oui. Armel Faure, comment réagissent les habitants à cette époque? Comment ils accueillent ces projets de barrages? C'était attendu, cette expropriation? Comment ils ont vécu ça?
Alors, il faut vous dire que, comme vous l'avez noté, l'annonce de la construction du barrage a démarré en 1942. C'était la guerre. Et la véritable construction, c'est beaucoup plus tard. Donc, il y avait une sorte d'incrédulité de la part des personnes qui... Je parle du barrage de Bort-les-Orgues, puisque c'est 70 ans cette année. Il y a 5 grands barrages de la Dordogne et il y a 20 villages et hameaux engloutis sous ces 5 grands barrages. Mais vous imaginez que les gorges de la Dordogne, dont a parlé tout à l'heure Louis-Olivier Vité, sont très différentes. Des grands espaces de la vallée de Bort-les-Orgues où personnes, les agriculteurs avaient des propriétés de 25, 40 et jusqu'à 100 hectares. Donc c'est difficile de comparer tout cela. Quand vous allez déplacer des habitants, puisque ça a été mon travail pendant très longtemps, vous essayez d'avoir une vision la plus minutieuse possible de toutes les différences et la diversité. Comme l'a dit Jean-François, bien entendu, une énorme transformation des paysages, mais aussi des activités économiques et des voies de communication énormes. Il y a quand même 1100 hectares de lacs. Donc là, vous perdez toutes les relations de rive gauche, rive droite. Ça transforme énormément la vie, comme l'a dit Jean-François, sociétale.
Et les habitants s'y attendaient ? Comment ça s'est passé ? Les habitants étaient préparés ? L'État a fait une... Comment ça a été vécu d'un point de vue local ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu de la sensibilisation ? L'État est venu leur parler de ces projets ? Comment ça s'est fait ?
Alors, il faut vous dire que les gens ne veulent jamais partir. Hein. Ouais. Les gens aiment leur endroit, particulièrement quand c'est des grosses activités. Mais partout où vous allez dans le monde, c'est très difficile. Donc là, la communication s'est faite. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc dans des conditions difficiles. Elle a été bien faite pour le barrage de Bord-les-Orgues, puisque c'était des personnes qui ont pris les choses à cœur. Pas seulement à cause du château de Val, mais la communication et les échanges. Il y avait en particulier un animateur paysan qui s'appelait Marius Vazeille, qui a servi de médiateur et qui a été extrêmement utile pour atténuer les tensions. Mais il y a quand même eu pas mal de tensions. Il y a eu le groupement des expropriés autour de la famille Darcy, du château de Val, et de la famille de Michel Gatignol, qui était au fond de la vallée et qui, eux, ont absolument tout perdu, parce que le village de Mialet a été totalement rasé. Et elle vivait à côté, mais là, je pense qu'il faudrait mieux que ce soit Carolina qui en parle, parce qu'elle est devenue très amie. Et aussi, il faut vous dire, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que la vallée de la Dordogne, c'était aussi une vallée, la haute vallée de la Dordogne, de chapelles et de monastères. Donc on a eu plusieurs chapelles et monastères engloutis. Donc non, les gens s'y attendaient, mais ils étaient pas du tout prêts à partir, et certains sont restés jusqu'au bout, et l'eau est montée dans leur maison alors qu'ils étaient encore dans la maison. Ils ne voulaient absolument pas partir.
On imagine assez bien la déchirure que ça a pu provoquer. Votre opinion, Carolina, sur ce sujet, c'est quand même l'objet de votre livre. Qu'est-ce qui a motivé finalement ce projet de partir sur cette mémoire ?
Ce qui a motivé ce projet, c'est une recherche. C'est une recherche, en gros, sur ma discipline, c'est la scénographie. Et quand j'ai voulu sortir du cadre du théâtre pour explorer comment on devenait scénographe en dehors du théâtre, je me suis souvenue d'une expérience que j'avais eue à mes 17 ans, où j'avais fait du canoë-kayak sur une rivière. Et pendant 3 jours, on faisait du canoë-kayak, jusqu'au jour où on m'a expliqué que ce périple, en fait, c'était un au revoir à la vallée, puisque un grand barrage allait submerger toute cette zone qu'on avait parcourue. Et à ce moment-là, on était justement précisément dans un village qui allait disparaître. Et donc, c'est quelque chose qui est resté vraiment gravé en moi comme un moment d'irréalité. Je me suis dit, c'est impossible de faire une chose pareille. Et c'est vrai que des années plus tard, quand je sors du théâtre pour essayer d'être scénographe en dehors de cet espace clos, fermé, souvent noir, je me suis souvenue de ça. Et je suis retournée dans cette vallée, qui n'était plus une vallée. J'y ai vu le barrage, vu le village de Louche au Portugal, le nouveau village qui avait été construit. Et tout ça m'a semblé très, très irréel à nouveau, mais dans un tout autre contexte. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être dans un décor de théâtre.
Ah oui, c'est intéressant, oui, effectivement. Oui. Il y a une mise en abîme, finalement.
Voilà. Et c'est là qu'est partie toute ma recherche doctorale sur ces lieux disparus. Une fois qu'ils sont disparus, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et en cherchant des exemples, je suis tombée sur le livre d'Armelle Faure. Et voilà, et j'ai voulu la rencontrer et ça a été, elle m'a tout de suite accueillie et c'est comme ça que je suis arrivée à cette matière. Mmh. Après, moi j'arrive beaucoup plus tard dans le processus par rapport à ce qu'a fait Armel. Mmh. Mmh. Et dans Armel, elle a un travail qui est plutôt d'accompagner les populations et dans le processus de déplacement forcé, de défendre leur intérêt aussi. Enfin, dans ce cas précis de la Dordogne, elle arrive encore beaucoup plus tard et elle fait un travail de mémoire. Bon, et des artistes peuvent aussi participer à ce processus. Il y a d'ailleurs une artiste colombienne très intéressante qui s'appelle Carolina Caicedo. Elle s'appelle Carolina aussi, et qui a un projet en continu qui s'appelle... elle travaille beaucoup dans la défense des rivières, mm-hmm. et elle a un projet continu qui s'appelle Be Dammed. Et c'est intéressant parce que dam, c'est barrage en anglais. Et il y a un petit jeu de mots, puisque Be Dammed, ça a un côté... Ça veut dire aussi, ça parle aussi de la damnation.
C'est ce que j'allais dire.
Ouais, du fait de dame, la construction du barrage et la damnation. Mm. Et puis, il y a aussi une artiste française qui a travaillé sur les villages engloutis espagnols, qui a fait un très beau film documentaire qui s'appelle Atlas Oculto, et c'est Anne-Laure Boyer. Voilà, je voulais parler de ça, parce qu'en fait, ce sont des histoires, enfin, ce sont des événements qui provoquent des histoires.
Et, oui.
Et des dramaturgies très particulières, des dramaturgies liées à l'espace. Et c'est là où, en tant que scénographe, c'est fascinant d'aller travailler sur cette matière et de recueillir ces histoires et comment l'histoire est liée vraiment à la Terre et au territoire.
Ouais, c'est vrai, tout à fait. On va passer à présent, on va vraiment zoomer sur ce barrage de Bort-les-Orgues, hein, qui est quand même un des plus imposants barrages hydroélectriques de France. Il mesure 135 mètres de haut sur 390 mètres de long et s'étend sur une superficie de 10,7 km² et 21 km de long. Et nous fêtons, donc on l'a dit, hein, cette année les 70 ans. Je vous propose juste d'écouter ce court extrait et d'en discuter ensemble ensuite.
Ce barrage a aujourd'hui 60 ans. Racontez-nous les travaux, ça a dû être titanesque.
Ah bah c'était une véritable épopée, parce qu'il faut se rendre compte, déjà 10 ans de travaux, 1500 ouvriers pour le réaliser. Donc vous imaginez à l'époque la dimension du chantier pour réunir 1500 personnes pour travailler comme ça. On a atteint des cadences de bétonnage journalières jusqu'à 3200 m3 par jour.
Encore aujourd'hui, ça force l'admiration quand même, ce chantier.
Ah bah tout à fait. Quand on voit les images d'archives, on se rend compte de la dimension que ça représentait et que ça représenterait toujours si on était amené à refaire exactement le même aménagement, en fait.
Donc on vient d'entendre la voix du chef du groupement d'usines de Bort-les-Orgues chez EDF qui répondait au micro de France 3 Nouvelle Aquitaine en 2016. Et l'histoire nous apprend que les travaux débutent en juin 1942 avec un chantier de 300 personnes qui évite ainsi le service de travail obligatoire. Les conditions sont particulièrement difficiles. Le chantier sera plusieurs fois emporté par les crues de la Dordogne et les avaries multiples feront quand même 23 morts au cours du chantier. Donc, au cours des travaux, on découvre aussi que les conditions géologiques ne correspondent pas aux prévisions et complexifient encore la mise en œuvre du barrage. Des travaux supplémentaires sont nécessaires et en particulier la consolidation des fondations. En 1949, le nombre de travailleurs sur le chantier est porté à 1500, comme on vient de l'entendre. Jean-François, racontez-nous la prouesse technique de ce barrage. Qu'est-ce que sa construction a permis à l'époque ?
Oui, alors c'est un chantier hors norme, hein, quand on parle du chantier du barrage de Bort-les-Orgues, dont les travaux commencent en 1942 par le service d'aménagement de la Haute-Dordogne. Et les entreprises métropolitaines et coloniales interviennent donc sur ce chantier avec des travailleurs venus de loin, mm-hmm. du Maghreb, d'outre-mer, etc. Et il faut ajouter à cette organisation de chantier, évidemment, le concepteur André Coyne, qui est le grand concepteur des barrages, et notamment des barrages de poids brut comme celui de Bort-les-Orgues. Donc c'est, à l'époque, il faut aussi rappeler que c'est les barrages le plus important de France. C'est le plus important de France. Mm. Et avec les techniques qui étaient celles de l'époque, ça a nécessité des travaux préparatoires, vous l'avez dit, très très importants, de dérivation de la Dordogne, de façon à avoir une zone asséchée pour construire le bloc barrage-usine, et puis cette dérivation a appelé à creuser, à percer la roche avec des difficultés liées aussi aux crues, comme vous l'avez dit. Et le véritable lancement du chantier est lancé en 1946-47 avec le déplacement de la voie ferrée et la préparation des ancrages, des installations du chantier. Les ateliers sont établis sur environ 4000 m², ce qui montre la superficie nécessaire à ce chantier. Et puis, il a fallu installer des grandes usines à béton, des téléphériques à agrégats, etc. Et aussi, organiser le chantier d'un point de vue de la vie humaine des intervenants. C'est-à-dire qu'il a été créé la cité de la plantade, qui sera mise à l'honneur d'ailleurs cette année par une exposition. Et cette cité de la plantade a accueilli tous ses personnels pour le chantier. Et comme vous l'avez dit, 1949, 1500 intervenants, ce qui est énorme.
Oui.
Et c'est un véritable bouleversement. C'est une fourmilière qui est sortie au niveau de Bourg-les-Ors autour du chantier.
Oui, c'est vrai, parce que 1500, c'est bien plus qu'un petit village. Hein. Déjà, on est, ça représente une forte population. Ça a dû être une énergie incroyable. Armel, vous qui avez beaucoup travaillé sur le témoignage de ces anciens habitants, justement, quelles ont été les réactions des habitants par rapport à la construction de cet ouvrage ? Ça a été une opportunité économique pour eux ? Comment ils ont reçu la chose ?
Vous avez raison, et je suis contente que Jean-François ait signalé le train, qui a été vraiment le grand problème pour le barrage de Bourg-les-Ors, pas pour les quatre autres. Alors, effectivement, le fond de la question, c'est que quand vous avez des exploitations qui sont viables, qui sont assez grandes, vous ne pensez qu'à transmettre votre ferme. Et c'était l'obsession des familles. Les familles ne vivaient que pour la transmission des fermes et des maisons, mais surtout des fermes, des exploitations agricoles. Donc là, pour le barrage de Bourg-les-Orgues, c'était très difficile de faire admettre à une famille de paysans dont toute la stratégie était de rester paysanne parce qu'ils avaient les moyens de l'être, de devenir ouvrier. Alors que dans les gorges de la Dordogne, qu'il s'agisse du Chaston, du Sablier et même d'ailleurs un petit peu de l'Aigle, ces barrages ont été l'opportunité de sortir de la pauvreté. Et même pour certaines personnes sur le Chaston et le Sablier, de faire une carrière dans l'hydroélectricité. Mmh. Parce que c'était des familles nombreuses, il n'y avait pas de la place pour tout le monde dans les fermes, etc. etc. On n'était pas du tout dans ce cas de figure-là pour ce qui était du barrage de Bourg-les-Orgues, où vraiment, on ne vivait que pour l'agriculture et surtout l'élevage. Et là, j'insiste un petit peu sur une chose, c'est que la perte du chemin de fer a été énorme pour les Corréziens, parce qu'ils arrivaient à Paris en une nuit. Ils allaient à Paris comme ils allaient à Bourg-les-Orgues. Je pense à ceux de Port-Dieu, de ce chef-lieu de commune qui a été totalement englouti. Mais vous aviez aussi tous les Auvergnats de l'arrière-pays qui vivaient grâce à l'arrivée, enfin, au départ de tous leurs produits agricoles, de tous leurs produits laitiers vers Paris, vers le fameux marché parisien. Et ça, c'était, pour eux, ça a été une perte absolument drastique, une perte financière, une perte économique, et l'impossibilité souvent de se reclasser. Il a fallu au moins 10 à 20 ans pour qu'ils arrivent à trouver d'autres moyens. Et, par exemple, par les camions, parce qu'il faut vous dire aussi qu'à l'époque, au tout début de la construction du barrage de Bourg-les-Orgues, c'était encore la fin de la guerre, il n'y avait pas de pneus. C'était au char à bœuf, et le train, tout venait par le train. Le bois de la Corrèze partait par le train, et tous les produits laitiers, le fromage, etc., partaient à Rungis.
Enfin, enfin, les Halles, à l'époque.
C'était l'ancêtre de Rungis, à l'époque.
Oui, c'est sûr, ça devait être quelque chose. Effectivement, en plus, certains ont changé de métier. Comment ça s'est passé? Ils ont retrouvé une exploitation agricole derrière?
Alors là, c'est un très, très... C'est une partie très importante de tous les barrages à travers le monde. C'est que, si vous voulez, il se passe, d'un point de vue économique et du point de vue en particulier des savoir-faire locaux, un télescopage historique. C'est-à-dire que ce que les habitants des villages d'à côté ont mis à peu près 70 ans pour se transformer, si vous voulez. Je pense à des artisans enfin, il y avait tout un tas de métiers qui n'existent plus, maréchal ferrant, etc. Et en particulier à Port-Dieu, si vous reprenez, on a le plan maison par maison, puisqu'on a interviewé tout le monde. C'était extraordinaire de voir que du jour au lendemain, les gens devaient se retrouver en ayant perdu leur marché, leur activité, et faire quoi ? Et c'était ça le grand drame. François Hollande, quand je l'ai rencontré à Tulle, m'a dit qu'il avait été au courant de mon livre parce que lui, il avait d'abord été à Ussel et on lui avait mal préparé ses fiches. Et on ne lui avait pas dit que c'était le lieu de repli des habitants qui avaient beaucoup perdu de Bord-les-Orgues. Voilà une petite anecdote. Mais il faut vous dire que le télescopage historique, c'est que vous devez changer drastiquement de vie et d'activité économique alors que vous êtes dedans depuis des générations. Il faut se remettre dans le contexte. En l'espace de 2 ans, ce qui est impossible. C'est pour ça que quand je travaillais pour la Banque mondiale pendant quasiment 20 ans en déplaçant des gens, eh bien, on les accompagnait pendant 10 ans. On les accompagnait avec des budgets, on les accompagnait avec des formations. Mmh. Et on se centrait beaucoup sur les jeunes.
Et oui, bien sûr, oui.
En fait, ce qui perd le plus, c'est les générations des 45 à 60 ans et plus, parce que là, c'est très difficile de se recycler.
Et oui, quand on a déjà un métier bien connu, effectivement.
Exactement.
Carolina, vous avez visité, lors de votre périple, ce barrage de Bord-les-Orgues, assez impressionnant. Comment vous l'avez perçu, ressenti, approché même ?
Je dirais qu'il y a deux manières d'approcher, il y en a plus que ça, mais un premier abordage d'un barrage, on le fait soit par la crête, donc on traverse par le haut, par la crête du barrage, et là c'est vrai qu'il y a une sensation d'un côté on a le vide, et de l'autre côté on a le plein d'eau. Mmh. Et il y a une sensation de peur quand même et de vertige, une sensation d'irréalité une fois de plus. C'est vrai que c'est un objet spectaculaire, enfin, surtout le Bord-les-Orgues et le barrage de l'Aigle, ce sont des ouvrages spectaculaires. On peut aussi approcher un barrage par sa base. Mmh. Et là, c'est différent, c'est-à-dire qu'on arrive, on se sent vraiment tout petit, et une fois qu'on entre dans le bâtiment, il y a une autre vie qui est à l'intérieur, puisqu'on réalise qu'il y a, surtout à Bord-les-Orgues, où il y a un espace muséal qui accueille les visiteurs, donc il y a une vie, il y a un espace, il y a un musée, mais il y a aussi des techniciens et des gens qui y travaillent. Et puis, la dernière façon d'aborder ce barrage, c'est justement grâce au travail qu'a fait Armelle Faure. C'est la multiplicité des histoires qui se déploient à partir de cet objet qui devient vraiment un ouvrage mythique, en fait.
Et vous avez ressenti quoi la première fois que vous avez vu ce barrage ? Vous êtes dit, mais vous avez été impressionné par l'ouvrage ou plutôt impressionné par ce qu'il a entraîné en termes de répercussions sur les villages ?
Oui, voilà. Disons que ça reste ambivalent parce que même si l'ouvrage est spectaculaire, objectivement vraiment spectaculaire, disons qu'il n'y a pas, il y a moins un émerveillement devant l'ouvrage qu'une interrogation, une sensation d'invraisemblance. Et aussi, une fois qu'on connaît un tout petit peu ces histoires, on imagine tout ce qu'il peut y avoir sous l'eau.
Et oui. Vous avez navigué un peu sur cette retenue, non ?
Pas
sur celle-ci,
mais
ouais.
À Serre-Ponçon, oui.
À Serre-Ponçon,
ouais. Sur d'autres barrages aussi.
On va passer à la dernière partie de notre émission, mais avant, je vous propose d'écouter un autre extrait.
1953. À l'époque, le lac de Serre-Ponçon n'existe pas encore. À la place, il était en fond de vallée, un vieux village de montagne qu'on appelait Savine. C'était le village natal d'Henri, 78 ans.
Alors ça, c'est le vieux village de Savine, oui, avec son église. Ça, par contre, c'était l'avenue qui montait du vieux village de Savine à la gare de Savine. Avant, dans tous les bistrots, il y avait une partie de cartes le soir. Maintenant, c'est fini.
Si aujourd'hui, cette époque est révolue, c'est parce que le village n'est plus. Il repose désormais au fond du lac de Serre-Ponçon. En 1955, EDF, en association avec l'État, décide de construire une grande retenue d'eau dans la région. Le barrage allait permettre de réguler le niveau de la Durance, rivière de Provence, qui connaissait de fortes crues à cause des pluies en automne et de la fonte des neiges au printemps. Un projet noble, mais pas sans dommages collatéraux. Les Savinois se voient forcés de céder leurs terres et de laisser le village être englouti par les eaux.
Mais ça, à Savine, on n'y croyait pas trop parce qu'un ouvrage aussi impressionnant dans un pays où il ne se passait pas grand-chose, ça paraissait invraisemblable. Le 3 mai 1961, une date restée mémorable, c'est le jour où on a dynamité ce qui restait de Savine.
Les gens de Savine étaient presque tous partis. Et on est resté 27 familles à Savine. Et au départ, quand on est resté à Savine, les gens disaient qu'on était fous, quoi. Il n'y a plus personne.
Tout comme Henri, Roger est un ancien du village. Ces images du vieux Savine, c'est lui qui les a tournées dans les années 50. Il avait 18 ans. Et à cette époque, il était loin d'imaginer qu'il ne finirait pas ses jours ici.
Ça a été très dur, principalement pour les anciens du village, parce qu'ils avaient passé toute leur vie ici, ils avaient leurs racines. Et du jour au lendemain, ils se sont vus vivre ailleurs.
L'enfance qu'on a eue, avec tous les amis, ça c'est terrible.
Après cette terrible épreuve, les Savinois ont reconstruit leur nouveau village au bord du lac, connu aujourd'hui sous le nom de Savine-le-Lac.
C'est plus du tout le même genre de vie, c'est plus du tout la même architecture. Puisqu'on a voulu faire de Savine, il suffit de regarder l'église, on a voulu faire quelque chose de nouveau, dans l'air du temps, j'allais dire.
On vient d'entendre un nouvel extrait de France 3 dans l'émission Météo à la carte, diffusée le 21 mai 2014, et qui met en avant le témoignage d'anciens habitants. Et on imagine assez bien que ça a dû être le cas pour beaucoup d'habitants des autres villages également engloutis. Armelle, parlez-nous un petit peu de ces expropriations. Comment, finalement, à ce moment-là, les habitants vivent la perte de leur territoire ? Vous l'avez dit en introduction, c'est une douleur, c'est une cicatrice qu'on ne peut pas refermé par la suite. Est-ce que ça, vous l'avez vraiment ressenti quand vous les avez interrogés, chacun ?
Absolument. Et cet exemple de Savine-le-Lac qui est remarquable parce que c'est quand même l'exemple du barrage à succès, entre guillemets. C'est vraiment... vous pouvez aller à Serponçon. C'est un magnifique endroit, très, très bien aménagé, qui continue toujours à être aménagé. C'est vraiment le plus bel exemple français. Vous avez parlé de Savine-le-Lac. Il faut savoir que les gens habitaient de l'autre côté, sur la rive droite. Ils sont partis sur la rive gauche. Mais surtout, il faut aussi ne pas oublier que EDF a fait beaucoup de progrès depuis Bourg-les-Orgues. Serponçon a bénéficié de toutes les erreurs. La plus grosse erreur, c'était Tignes. Ça a été le plus mal fait. Et c'est les personnes qui ont été envoyées pour... déplacer les gens avait une mentalité totalement inepte et inadaptée aux gens de Tignes, qui étaient des grands contrebandiers, qui étaient des skieurs, qui passaient leur vie sur et qui avaient beaucoup de revenus par l'élevage. Donc, si vous voulez, laissons Tignes. Mais pour revenir sur Savine-le-Lac, le plus important, c'est toujours de réfléchir à la zone d'accueil. La zone d'accueil, elle a été réfléchie par EDF très tôt. Puisque vous avez eu Savine-le-Lac nouveau, donc le nouveau Savine sur la rive gauche, qui a été designé, si je peux dire, par l'architecte Panacek, c'est magnifique. Allez le voir, c'est extraordinaire. Par contre, pour Bourg-les-Orgues, c'était le tout début pour EDF. Il n'avait pas de politique, si vous voulez, de déplacement de population. C'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'était un désespoir, on ne savait pas faire, si vous voulez. Nous, on arrive 30 ans après, avec la Banque mondiale, il y a eu énormément de réflexions internationales avec les anthropologues anglais, les anthropologues américains, peu de Français, malheureusement, qui n'ont pas voulu s'y mettre. Mais on a bénéficié d'énormément de connaissances, de matières grises. La Banque mondiale a fait les premières guidelines. Et là, la première chose qu'on fait en année moins 4, on prépare l'accueil des populations qui vont être déplacées. On prépare les voies de communication, on prépare les écoles, etc. etc. On prépare tout. Pour Bourg-les-Orgues, Coïne a voulu faire Confolens-Port-Dieu, le nouveau village. Mais il y a pensé en 1951, ça a été construit en 1951. Il aurait fallu le construire en 41, mais on n'était pas capable de penser à tout ça à l'époque.
Et Carolina, vous qui avez réalisé cette marche en écoutant ces témoignages d'Armelle Faure, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en fait dans ces témoignages ? Est-ce qu'il y a un détail, une histoire, une anecdote qui vous a particulièrement marqué ?
Les récits d'expropriation sont très marquants.
Ouais.
C'est vraiment très émouvant de réaliser à quel point les gens sont attachés à leur jardin, à leur verger, à leurs bêtes, à leurs voisins aussi. Et tout ça, ça participe à une sociabilité du vivant. Donc c'est les gestes et les tâches qu'on accomplit qui nous lient à la terre, aux gens, aux bêtes, au mur d'une maison, à son sol. Et justement, quand ces gestes-là perdent leur point de repère, on sent qu'il y a un déboussolement, qu'il y a un expatriement. Et même si on emporte avec soi les bêtes, les plantes, les tuiles, les fenêtres, les poutres, parfois les portes, en fait, il faut tout recommencer.
Eh oui. Voilà. Alors moi, il y a un détail quand même dans votre livre qui m'a particulièrement marqué, ou tout du moins, c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte à ce point-là que c'était une évidence, c'est que ils ont aussi, évidemment, déterré leurs morts, quand c'était possible, parce que certains sont enterrés sous la chapelle, si j'ai bonne mémoire.
Absolument.
Et donc, ils ont déterré leurs morts pour les réenterrer ailleurs. Ce qui est quand même l'acte de l'enterrement, de choisir son lieu où on veut se faire enterrer, c'est quand même très fort, puisqu'on choisit souvent le territoire auquel on est le plus attaché, au moins en partie. Ça, c'est quelque chose aussi qui vous a marqué.
Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a une question que pose Armelle, j'ai plus le nom du témoin en tête, mais qu'est-ce que vous emmenez avec vous quand vous partez ? Nos meubles et nos morts.
Ouais, c'est dingue, hein. C'est vrai que on se rend pas compte à quel point ça doit être un moment historique assez marqué et assez marquant. D'ailleurs, Jean-François, c'est un poids du passé qui doit être assez difficile pour EDF, je pense, à assumer aujourd'hui, même si d'une certaine façon vous n'êtes pas tenu responsable de tout cela. Comment, malgré tout, vous composez avec cette réalité et comment vous réalisez un travail éventuellement sur la mémoire hein.
Absolument, j'ai l'habitude de dire, pour ceux qui m'entendent parler à EDF, au sein d'EDF Hydro et puis à l'extérieur, que le rapport entre les barrages sont constitutifs de communautés de territoire, de communautés de destin, et ça prend toute sa valeur dans votre question, et communautés de projet. Donc, votre question illustre tout ça. La construction d'un barrage, ça se fait sur un territoire donné, sur lequel vivent des habitants, où il existe un paysage, etc. Et donc, on entre dans cette communauté de territoire et communauté de destin, parce que la construction, le rapport barrage-habitant peut modifier le destin des habitants. Et ce rapport s'inscrit dans un temps long, parce que nous, quand on arrive, on crée un barrage, on construit un barrage, on s'inscrit sur un temps qui est long. Donc, ce destin commun, il est durable et il faut prendre en compte cette temporalité-là. Et ce qui est très intéressant quand on prend ce recul-là, c'est qu'on se projette aussi sur une communauté de projets et donc on voit que maintenant, à partir de toute cette histoire-là, des projets se créent en matière de création, de développement économique, touristique, mais aussi en sciences sociales. Et il y a 10 ans, au moment du 60e anniversaire du barrage de Bord-les-Orgues, EDF n'avait pas abordé le sujet de l'engloutissement des villages et de ce qu'avaient vécu à l'époque les habitants. Et c'est sur une invitation, une initiative de certains maires et bien entendu d'Armelle, qu'on nous a suggéré d'investir ce champ de la mémoire. Et ça fait 10 ans qu'on y travaille et on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Et merci aussi à Armelle et à tous ceux qui se sont investis dans ce projet, parce qu'on a constitué quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant de cette ampleur, avec cette rigueur, avec cette méthode. Parce que ce qui est important dans votre question aussi, pour y répondre, c'est qu'il faut une méthode pour aborder ces sujets-là sereinement. Il faut une expertise, une méthode, c'est ce que nous a apporté Armelle. Et après 5 ans de constitution de ce programme d'archives orales, aujourd'hui, on voit toute l'inspiration que ce programme a suscité en matière d'exposition, de création artistique, d'édition, mais aussi ce nouveau rapport qui est établi entre les témoins et EDF Et ça, il a fallu 10 ans de travail pour y parvenir. Et aujourd'hui, en 2021, on peut sereinement travailler sur ce travail énorme qui a été fait dans ce domaine.
Merci, merci pour vos témoignages à tous. L'émission touche à sa fin. Je vous propose juste un tout petit extrait très rapide du livre de Carolina sur une valse, la valse chantée par Michel, alors que vous retrouverez dans les archives orales qui sont disponibles donc aux archives du Cantal, de la Corrèze aussi, auprès d'EDF. Cette valse donne ça. La vallée, je la pleure tout entière, mon mialet tant aimé, ce village regretté. Si vous passez par là, ne vous arrêtez pas, car ils ont tout noyé pour l'électricité. Prenez tous vos bateaux pour naviguer sur l'eau. Pensez à nos aînés qui nous ont tous quittés. La vallée, je la pleure de tout mon être. La Déderie, la Jugie, les villages engloutis. Surtout n'oubliez pas tous les trains d'autrefois, car ils ont tout noyé pour l'électricité. Ces prairies, ces vergers, ces goujons empêchés, et la truite appréciée sous la pierre bien cachée. La vallée, je la pleure tout entière. La Dordogne et ses ponts, toute la vie, nous les regretterons. Je trouve que c'est une très belle valse, en tout cas très belle chanson, qu'on peut lui rendre hommage à Michel. Merci vraiment pour tous les trois pour cette émission. Merci à tous de votre écoute sur Radio Territoria. Je vous rappelle vos ouvrages, donc Murmures des villages engloutis, Carolina et Santo, et vos ouvrages aussi, Armel Faure, peut-être un en particulier que vous voudriez nous donner, nous montrer. Bord les orgues, les mots sous le lac.
À Carolina et que nous connaissions, donc Bord les orgues, les mots sous le lac. Merci à EDF. Et puis il y a aussi celui-là qui est très important.
Ça, c'est ça. Voilà, les 100 témoignages oraux. Voilà, ça, c'est la Bible. Très bien. Merci.
La référence, c'est grâce à cela que les artistes continuent à venir nous voir.
Oui, c'est vrai. Et je rappelle d'ailleurs le programme du 70e anniversaire du barrage qui est consultable sur Internet, www.bordlesorgues70ans.fr, où vous aurez toutes les informations pour y participer cet été. On vous y attend nombreux. Merci encore à tous. Et à très bientôt sur Radio Territoria.
Écrivain du territoire, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.